R22 Tout le monde, antenne École du Magasin, Take You There Radio.
La fusée interplanétaire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero.
Pour moi, Chopin, ce qui est important, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui fait le pont, le lien entre la poésie et la machine à enregistrer, le métophone. Et pour lui, ça c'est vraiment quelque chose de capital qui va aller jusqu'à, non pas définir, mais cadrer tout ce qu'il a parlé, nommé de poésie sonore. Parce que c'est vraiment, on arrive à un moment où il y a déjà eu des tentatives d'exploser la phrase, le mot, la lettre. Et lui, il va encore plus loin là-dedans en quittant la feuille de papier et le crayon et en ayant un micro et une bande magnétique dans laquelle il va inscrire. Et dans cette inscription, il va aller encore plus loin en faisant disparaître les mots et en n'ayant plus que des sons du corps, quoi. Jusqu'à introduire le micro dans son corps le plus loin possible, quoi, justement. Il y a une sorte de retournement interne du poète sur lui-même, presque. Mais c'est vraiment cette idée que, voilà, ça serait presque rétrograde, même si c'est pas interdit, de travailler encore avec un stylo et du papier, et qu'on doit... la poésie, elle change, et on quitte le mot, et on va vers cette possibilité de l'enregistrement qui va ouvrir de nouveaux champs poétiques, quoi. Donc ça c'est vraiment le truc super important chez Chopin, et c'est lui aussi qui va amener beaucoup de poètes à l'enregistrement. Par exemple des gens comme Jill Wallman, qui est quelqu'un qui faisait partie des lettristes, qui s'est fait virer juste avant la création d'Internat Situationniste par Debord, mais qui était quelqu'un dont on redécouvre le travail un peu grâce aux éditions Alia. C'est quelqu'un qui est vraiment... super important. On connaissait peu le travail parce que c'était quelqu'un qui s'en foutait, qui faisait ses choses pour lui, mais c'est vraiment aussi quelqu'un qui serait presque le créateur de tout ce qu'on appelait le cut-up qu'on a ramené à Brian Gesin et à William Borough, alors que lui l'avait déjà fait avant, mais ça, peu importe, hein, ça, je dis ça pour remontrer un peu le personnage. Il y a tout son travail de qu'il appelait Dark Scotch, de où il déchire des documents avec du scotch en laissant que des traces, un peu, chose qu'on retrouvera un peu dans chez pas mal d'artistes plus tard. Et il a beaucoup travaillé donc, dans le domaine de la poésie sonore avec ce qu'il appelait les mégapneumes. Et c'est Chopin qui l'amène à... Parce qu'il faisait ça en direct, on va dire. Mm. Et c'est Chopin qui le convainc de faire des disques et d'enregistrer, parce que c'est quelque chose qui l'intéressait pas spécialement. Pour Chopin, il y a aussi vraiment l'idée de d'où la revue Où, qui au début n'existe que sur papier, puis après il y a les disques qui interviennent. Mais c'est l'idée aussi d'enregistrer ça, parce que ça n'existait pas à l'époque. Mm. Un des premiers 45 tours qui a été fait en poésie un peu sonore, c'est un 45 tours de Maurice Lemaître. Mm-hmm. C'est pour ça que Chopin était assez... pas proche, mais soutenait pas mal Lemaître, notamment par rapport à ses disques. Voilà, j'en ai sorti un de Maurice Lemaître, mais qui a été fait un peu après, où là c'est un double 45 tours, où t'as un 45 tours aussi, il y a une face qui est vierge, et il n'y a pas de sillon, et c'est toi qui peux laisser la liberté à l'auditeur de faire ce qu'il veut dessus.
Lettre rock.
Dodobi, 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 dodobi. Drudona, wa, nan, bin, frum. Se, wok, non, dun, frim. Ta, un, gun, gon, han. Plus, dun, ston, tan, fin. Pin, ton. E, lot, min, dung. No, wok, non, din, from. Si, wak, min, dan, frem. To, an, dan, din, han. Pilos, din, stan, dun, fem. Dot pin ton, e lot min dung. No be shui be la ba, be shui be la ba, do do be. Ni we can don zrin, nu wo kon dan zren, ka anoten tun vran, to lis tin tan tun zlin. Dot pin ton, e lot min dung. Je suis Béla Bu, Dédé Bo, Do Bé Wantan Trenxin, Débo Wanteng Son, Edo Sindon Ben Yun, Bido Sandag Bin Yen, Dot Bin Tong, E Lot Min Dung, Bé Chui Bé La Ba, Bé Chui Bé La Ba, Do Do Bé. Do Do Min Tong, E Lot Min Dung, Dot Pin Tong, E Lot Min Dung, Na Bé Chui Bé La Ba, Bé Chui Bé La Ba, Do Do Bé, 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 Do Do.
Mais si tu veux, ouais, pour moi, voilà, Chopin, ça, il va dépasser un peu toute la poésie. Bah, quand tu parlais du Gobal ou de Dada, ce qui s'est passé au Cabaret Voltaire, il va dépasser ça.
Par la technologie, ouais.
Par la possibilité de l'enregistrement. Après, c'est pas une technologie si gigantesque que ça, hein, c'est juste un micro et un magnétophone. Mais c'est vraiment l'idée, voilà, de transformer ça. Et cet enregistrement permet immédiatement de transformer la voix en la ralentissant, en l'accélérant, en la mettant à l'envers, en la filtrant, etc. etc. Mm. Et donc il va exploser, il va dépasser un peu toute la poésie ici de Dada ou d'Électriste pour aller vers ça. Et puis après, il y a des gens qui vont le faire encore plus, mais différemment. Moi, je trouve, c'est vraiment toute l'école, entre guillemets, suédoise, avec ce qu'on a appelé le text sound composition, où là c'est vraiment l'idée, en fait c'est la rencontre entre la musique électroacoustique et la poésie sonore, en fait. Où principalement tous les sons viennent de la voix qui devient le matériau principal et qui est complètement retravaillé en studio. Et ça c'est lié notamment à un lieu à Stockholm qui s'appelle Filkingen,
oui, c'est un grand
centre de musique expérimentale.
Au début de ce livre aussi, il parle d'une espèce de regret de ne pas pu avoir entendu trop les voix de certains auteurs, qu'il n'y avait que James Joyce dont on peut entendre la voix.
Parce qu'il parle aussi beaucoup de Shklebnikov, ou de Mayakovsky, ou des Russes dont on connaît les textes, mais que certains ont pu entendre, mais il n'y a pas de traces. Et donc pour Chopin, c'est aussi ça l'important. Parce que le livre, le texte, il reste, et donc il faut aussi qu'il y ait ce sonore de la poésie qui soit encore là. Donc pour lui, je dis, c'est important aussi, par rapport à ça. Ouais.
La deuxième question, quand j'ai commencé mes recherches, j'avais une espèce de fascination pour le fait qu'au Moyen-Âge, les gens lisaient à haute voix. Et du coup, je me disais que c'était hyper paradoxal ce mouvement de poésie qui revient dans les années 50 avec cet outil qu'est le magnétophone. Donc quelque chose. C'est pas une énorme technologie, mais c'est quand même une avancée par rapport à une espèce de. Si on suit une espèce de. Ligne progressive de l'histoire. Et ils reviennent à ce truc oral. D'ailleurs, enfin, je sais pas, Bernard Etty qui en parle, à cette espèce de truc de reconquête de l'oral avec les troubadours. Il parle des troubadours du Moyen-Âge. Mm-hmm. Donc je trouvais qu'il y avait une espèce de cycle aussi qui se faisait. C'est-à-dire qu'il y avait la technologie du livre qui était arrivée avec Gutenberg et qui avait placé les. Et ça correspond aussi à la réforme, donc à une espèce de rapport un peu intérieur au texte, donc à la Bible notamment. Et après, du coup, ces poètes qui reviennent le siècle dernier, ils veulent un peu tout casser, quoi. Mais ils reviennent à un truc. Du coup, il y a une espèce de. Je voyais ça plutôt comme un cycle qu'une ouais. Évolution. Presque.
Mais en tout cas, le parallèle avec le début de l'imprimerie, Chopin le fait, ouais, donc c'est pas faux. Après, je pense aussi que. Parce qu'après, ça, c'est tellement intime à chaque auteur. Je pense qu'il y a. Moi, à chaque fois que je rencontre des écrivains, je leur demande s'ils lisent à voix haute. Mm-hmm. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un écrivain qui écrit pour les enfants, quoi, plutôt jeune public, comme nous. Mm-hmm. Il s'appelle Thomas Cotto. Et justement, c'est une question que je lui posais. Il m'a dit, ah oui, moi, je lis toujours. Dès que j'ai fait une phrase, je la lis à voix haute. J'en ai besoin, quoi. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a existé peut-être de tout temps. Toi. C'est très personnel, on ne le sait pas forcément. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on a, y a un rapport à la lecture. Bah, c'est un peu ce que tu évoquais avant aussi par rapport à une question économique. C'est que quelquefois, quand tu vas gagner plus d'argent, mais je dis ça tout bêtement, tout est raté, en allant faire une lecture quelque part ou un atelier de lecture quelque part, qu'en vendant des livres.
Mais surtout, oui.
Il y a aussi ça, et c'est pas pour ça que c'est. Ce que j'appellerais moi de la poésie sonore, c'est de la poésie qui est lue. Mm-hmm. Mais je n'appellerais pas ça de la poésie sonore au sens où Chopin le définissait. Quoi.
C'est la différence, c'est que.
La poésie sonore, c'est qu'à l'arrière, il y a plus ce rapport de lecture, il y a plus d'intermédiaire.
Okay, oui.
C'est que dans la poésie sonore, tu vois, c'est le livre directement qui est fait, si on doit faire encore une comparaison avec le livre, il est fait directement au moment de son écoute.
Mais du coup, alors, ces poèmes partitions, par exemple, de Bernard Hittig, c'est un objet qui se situe entre les deux ou...
Ouais, mais en même temps, les poèmes partitions de Bernard Hittig, alors, c'est toujours aussi. Moi, c'est aussi un problème. Pas un problème, mais une question que j'ai beaucoup d'auteurs qui sont un peu dans la lignée de Bernard Hittig, c'est le rapport au texte. Mais en même temps, le texte de Bernard Hittig, effectivement, tu peux le lire comme ça. Mais à l'écoute, ça prend une autre dimension, parce qu'il y a toute l'accumulation, il y a plusieurs voix, même si c'est toujours la sienne. Par exemple, une pièce comme Canal Street, ça joue beaucoup sur l'accumulation, c'est l'idée aussi de la multitude, de la grande ville à New York, etc. Mais tu peux effectivement lire le texte, mais d'une part, tu as le texte qui est écrit pour les plusieurs voix, mais toi, tu ne peux lire qu'une voix à la fois. Et là, l'enregistrement te permet d'avoir l'œuvre totale, quoi. Donc c'est presque deux niveaux différents, mais qui sont complémentaires.
Mot.
Mot.
Spaghetti.
Des mots. Des mots.
Diarrhée.
Des mots. Des mots.
Vermicelle.
Des mots. Des mots.
Vermicelle.
Magnétique.
Des mots, des mots.
Qu'est-ce que
des mots,
des flots,
des fuites,
des fleurs,
des mots,
des mots.
Pour
des mots,
pisser,
des mots,
couler,
des mots,
couler,
des mots,
couler sans fin.
Des mots,
et puis,
des mots,
des mots,
ce,
des mots,
votre,
des mots,
des mots,
des mots,
dans l'ambiguïté.
Faut de mieux.
Des mots,
des mots.
Jusqu'à l'extase.
Des mots,
des mots,
des mots,
des mots.
Faute d'amas,
de piton,
de point fixe.
Des mots.
Faute, 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 faute.
Des mots.
Jusqu'à plus soif,
aveuglément.
Non.
Des mots.
Pour ne rien dire.
Des mots.
Des mots.
Allez.
Des mots.
Rien.
Des mots.
Comment savoir.
Des mots.
Des mots.
Des mots. tandis
des mots,
que cela,
des mots, des mots,
n'en finit pas
de couler.
Des mots,
sous des mots,
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 fin,
des mots,
des mots,
coule,
des mots,
des mots,
partout,
des partout,
des mots,
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 un verre,
des mots,
des mots,
des mots,
des mots,
en fil, en chaîne, mot piège, mouvant, ça.
Des mots,
des mots,
de sourire,
des mots,
hey, des mots,
des mots,
mots secs,
des mots,
de glace,
des mots,
des mots,
l'email de mots,
tranchant,
brut,
des mots,
des mots,
incisif,
et qui chute, 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 chute,
des mots,
dégouline, brouille, sa masse et s'empile,
des mots,
colle de partout,
des mots,
des mots,
mollets,
des mots,
jambes,
aux cuisses,
des mots,
des mots,
des mots,
à la
taille,
des mots,
des mots,
des yeux,
des mots,
la boutique,
des mots,
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 des
tourbillons, tourbillons, tu m'entends, je t'écoute, tu me parles,
je te lis,
des mots,
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 paquet,
des mots,
des
marais,
des mots,
des mots,
des mots,
tout bas,
horizon,
des mots,
azimut,
des mots,
teinture,
des mots,
des mots,
chloroforme et magma.
Alors,
alors,
des mots,
des mots,
nager,
surnager,
des mots, trancher,
à grande
brassée,
coup de rame,
vague
sur vague
qui monte,
s'amoncelle,
tressaute
et s'agite,
danse
du ventre
bien plus
en cours,
qui dit mieux
s'additionne,
peut-être,
sans doute,
ou se neutralise,
peut-être,
ou sans doute,
peut-être,
sans doute,
des mots,
des mots,
c'est comme ça,
des mots,
des mots,
comme ça,
des mots,
des mots,
et puis voilà,
des mots,
alors,
des mots,
alors,
des mots,
des mots,
des mots,
des mots,
des mots,
péché,
des mots,
pêche
à la crevette,
des mots,
des mots,
à la sauvette,
des
filets troués,
ou,
des mots,
des mots,
des mots,
des mots,
pipés,
des mots,
pourris,
des mots,
rapiécé,
des mots,
des mots,
des mots,
des mots,
des mots,
rigolade,
des mots,
des mots,
si,
des mots,
des mots,
des mots,
oui,
des mots,
d'accord,
des mots,
proteste,
qu'importe,
des mots,
des mots,
rigolade,
des mots,
non,
si,
tiens,
ah,
des mots,
des mots,
des mots,
qu'en penses-tu,
des mots,
bonne foi, mauvaise foi,
tiens,
tiens,
des mots,
et
puis
du doute,
du doute,
des mots
permanents,
des mots,
il y en a marre,
marre, marre, marre,
marre,
des mots,
donc,
des mots,
des mots,
allons,
des mots,
des mots,
des mots,
calmez-vous,
des mots,
des mots,
des mots,
des mots,
de tenue,
de
self-contrôle,
de
quant à soi,
des mots,
un,
des mots,
voyons,
des mots,
des mots,
jusqu'à ce soir,
des mots,
des mots,
en revanche,
des mots,
que dites-vous,
des mots,
des mots,
bien sûr,
c'est trop drôle, trop drôle. Vraiment,
des mots,
des mots.
Je ne l'aurais pas cru.
Des mots.
Ah oui, vraiment.
Des mots,
des mots.
Ah oui, oui.
Des mots,
des mots.
Vraiment.
Des mots,
des mots.
C'est tout.
Des mots,
des mots.
Des mots.
Vous trouvez?
Des mots,
des mots.
Tu rigoles?
Des mots.
C'est pas.
Des mots,
des mots.
Des
plaisanteries.
Des mots.
Que non, que oui.
Des mots.
Certitude, incertitude.
Et qui dit mieux?
Des mots.
Pas moi.
Moi,
oui.
Et tant mieux,
et tant pis.
C'est trop drôle.
Ah oui, vraiment?
Ah oui, vraiment.
Ah oui, vraiment?
Ah oui, vraiment.
Salut?
Ah oui, bientôt.
A tout de suite.
Où es-tu?
Où êtes-vous?
Ah oui?
Ah oui, vraiment?
Vraiment?
Je ne
vous aurais pas reconnu. Je ne vous aurais pas reconnu. Communication.
Des mots.
Des mots.
Communication.
Des mots.
Mais le texte seul, c'est pas la pièce finale. Quoi. Même Vaduz, tout autour de Vaduz, ça marche aussi par rapport à l'accumulation, par rapport à cette espèce de...
Et puis il y a un truc, parce que je sais que nous, on l'a écouté là, enfin d'habitude moi je l'écoute sur un ordi et tout, bon comme ça. Puis là on l'a écouté dans le studio qu'on a construit, donc avec deux enceintes stéréo, mais c'est un peu bête hein. Mais du coup il y avait un truc qui remplissait l'espace, enfin qui est, c'est la pièce, on sent plus la pièce là que quand on l'écoute avec une source un peu mono quoi.
Ouais, ouais, parce que c'est vraiment l'idée de t'étouffer presque dans, le, dans cette circulation. On part d'un, d'un tout petit point qui est le punchline. Et puis on tourne tout autour du monde. Quoi. En fait, c'est comme presque un film de Michael Snow, là, un film qui s'appelle La Région Centrale, où
ouais.
sur 3 heures, ouais, ça, 360 degrés, tu pars d'un tout petit point. Puis...
Et, mais ça fait, moi, je pensais peut-être un truc plus populaire, mais Les Berruriers Noirs. Ah, salut à toi, quoi. Enfin... Et du coup, c'est arrivé après ou c'est arrivé bien après, non?
Oui, oui.
C'est marrant. Et tu... Est-ce qu'il... Je me suis toujours demandé s'il l'avait entendu, cette pièce.
Alors, je sais pas, mais après, ça, c'est aussi des formes classiques comme la forme du canon.
Ouais.
Quand on chante, tu sais, l'accumulation, c'est toujours quelque chose qui. Puis c'est quelque chose de très martial aussi, quoi. Il y a toujours eu quelque chose comme ça, même dans les chants un peu militaires pour emmener les gens à la boucherie, quoi.
Ah oui. Okay. Mais c'est vrai qu'ils sont obsédés un peu par cette idée d'espace, genre, parce que moi je disais Petronio aussi,
ouais.
qui parle beaucoup de ça dans ses textes. Là, par exemple, j'emploie le mot espace pour bien déterminer la valeur quantitative sonore. Il y a cette idée aussi de l'espace qu'il y a entre sa bouche et celle de et les oreilles de l'auditeur, une espèce de truc très très matériel en fait, qui moi me fascine un peu aussi d'avoir un comme une sculpture presque ou quelque chose comme ça qui remplirait.
Ouais, et puis c'est encore une chose qui est liée au microphone et cette possibilité d'enregistrer, ou si tu enregistres là tout près de ta bouche, tu vas vraiment avoir une source sonore qui est limitée à ta bouche, mais dès que tu recules le micro, tu as en même temps l'espace qui est là, et cet espace là finalement, tu ne le perçois pas tant que ça, mais dès que tu changes, par exemple, tu changes la vitesse, tu baisses la vitesse 2 ou 4 fois moins, là, cet espace, il apparaît. Là, tu l'entends. Donc, je pense que c'est aussi dans cette idée-là de le concevoir et de l'appréhender par rapport à l'enregistrement. Après, cette idée aussi que y a toujours une sorte de retard aussi entre le moment où je parle et le moment où tu m'entends. Bon, le retard, il est imperceptible parce qu'on est, on est proche, mais le son se déplace à une certaine vitesse qui n'est pas si grande que ça, finalement. Donc très vite, il peut y avoir ce qu'on appelle un délai, quoi, un retard entre les deux. Donc il y a aussi, je pense, cet espace comme ça. Moi, ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à... Bon, mais c'est très différent, mais ça fait penser aussi à une phrase de Morton Feldman qui disait qu'à chaque note que tu fais, tu dois penser à... autant qu'il lui faut pour aller à l'oreille de l'auditeur et pour revenir à toi. Donc il y a aussi cette
truc de feedback.
Et mais après chez Feldman, c'est lié à une certaine lenteur aussi pour avoir le temps d'écouter les choses, donc c'est un petit peu différent, mais c'est encore une question d'espace. Et puis l'espace, il est aussi du fait, encore une fois, de travailler avec l'enregistrement et le haut-parleur. Il y a finalement un espace qui est déjà inscrit, qui est l'espace interne, l'espace du haut-parleur, l'espace de la bande magnétique qui est diffusé par les haut-parleurs. Il est fixé, c'est comme les lettres sur le livre, presque. Et après, il y a l'espace externe, qui est l'espace où on est pour écouter cette musique-là, diffusée par les haut-parleurs. Où là, il y a un autre espace. Et il y a deux espaces qui vont être ensemble, quoi, aussi.
Où le poème avait une nécessité, en fait, d'être écrit et d'être projeté dans le monde. Mais en fait, avec le magnétophone, il se rajoutait des éléments dans le poème qui était extérieur et qui n'était pas créé forcément par le poème ou par cette nécessité d'avoir le poème. Et donc, du coup, il se créait une espèce de truc poreux, en fait, où ça absorbait en fait, des choses qui étaient complètement extérieures au poème.
D'accord.
Et donc, il y avait ce truc que tu décris de mouvement d'aller-retour, en fait. Je sais pas si c'est clair.
Oui, si. Mais c'est... oui, ça rajoute aussi une certaine dimension d'aléatoire ou d'instabilité... Même si en même temps l'enregistrement il ramène aussi quelque chose de fixe. Donc,
Mais c'est vraiment ce que paradoxalement, j'ai retrouvé cette incorporation extérieure dans le poème jamais fini, lui disait que c'était jamais fini, parce qu'il y avait toujours, quand il travaillait ses bornes, des nouveaux sons en fait qui s'ajoutaient.
Bah après, c'est aussi... toi, si par exemple, tu écoutes Vaduz, et si... parce qu'il y a une bande, on va dire presque une bande étalon qui est diffusée, puis Bernard Lézier, il joue, il rajoute des choses par-dessus. Mais c'est sûr que s'il utilise la même, le même enregistrement, le premier enregistrement, ça date de quand elle date cette pièce, je ne sais plus. Fin 70, je crois. Et bien, si, tu vois, à chaque fois qu'il peut la jouer aussi, on va entendre aussi une différence de voix entre sa voix de l'époque et,
oui.
et sa voix d'aujourd'hui. Il y a aussi ça qui change. C'est comme quand tu écoutes notamment une pièce de Cage qui s'appelle Radio Musique, faite qu'avec des radios, puis une partition très précise qu'il faut, qu'il faut jouer avec les fréquences. Mais. Ça change tout. Ça change aussi parce que la radio elle-même, elle change, parce que les voix des radios changent, parce que la musique change, parce que c'est jamais pareil. Donc il y a plein de niveaux qui s'accumulent dans la variation. Quoi.
Je faisais le parallèle du coup par rapport à ces technologies comme ça. Que
ouais.
Mais c'est vrai que là, on parle de technologie qui est beaucoup plus vite. Puis même, après, le truc de cette pièce avec la radio, j'ai l'impression que, parce que si on la joue à deux jours différents, ça va être quand même...
Ah bah même si on la joue une heure après.
Ouais. Mais même aussi un truc géographique, c'est-à-dire parce que si on le fait en France ou en Allemagne ou aux États-Unis, ça.
Il faut savoir que Cage, la première fois où il l'a fait, c'était créé. Moi, ce que j'avais lu, c'est que ça avait été créé finalement assez tard dans un festival après minuit ou je sais pas. Et en fait, toutes les radios à l'époque n'émettaient plus, quoi. Donc il n'y avait que du vol blanc.
C'est dingue.
On sait bien qu'il y a toujours moins de femmes dans les pratiques artistiques, même dans les pratiques artistiques expérimentales qui se disent plus ouvertes sur le monde et sur des questions politiques, sexistes, etc. etc. Mais la situation réelle, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Quoi. Après, il y en a, mais c'est vrai qu'il y en a moins, il y en a moins que des hommes. Dans les années 50,
60, 70,
non, mais après, si, j'ai un trou de mémoire sur son prénom, je crois que c'est Lily Greenham, une anglaise.
Millions, people, get objects, thoughts, circulate, thoughts, float, millions, of people are getting killed, are getting are giving where for the use of killing of getting killed, millions are getting killed through the circulation of objects, the consuming of millions of thoughts for the use of killing.
À l'époque, dans les studios de musique, on va dire même
pour les
dans les studios de musique électronique, il n'y a pas beaucoup de compositrices. Toi.
On a travaillé un peu sur Eliane Radig.
Bon, Eliane Radig, ouais. Mm-hmm. Eliane Radig, c'est un exemple intéressant parce que c'est aussi quelqu'un qui d'abord elle est assistante, travaille avec Pierre-Henri ou Pierre Schaeffer. Mm. Surtout avec Pierre-Henri. Et quand elle commence à faire de la musique, on lui dit que bon. Ça serait mieux qu'elle reste assistante, quoi. C'est... Et en fait, mais après, elle, c'est pas que masculin-féminin, c'est aussi une conception de sa musique qui n'était pas vraiment reconnue en France. Et elle était beaucoup plus reconnue en Amérique du Nord qu'en France avant de revenir. Mais effectivement, oui, Eliane Radig, un peu moins âgé, mais il y a aussi Michel Bokanowski, qui a quelque part aussi été influencé par Eliane Radig. Mais tu as aussi Béatrice Ferreira, une compositrice en France. Tu as Mireille Kirou aussi, quelqu'un qui avait fait des pièces au GRM il y a très longtemps. Et puis, après, tu as par exemple Daphne Oram, qui est une compositrice anglaise, qui est assez incroyable, qui a beaucoup travaillé pour la, qui travaillait dans le cadre de la BBC. Mm-hmm. Après, il y en aurait beaucoup à lister, donc ce serait un peu idiot de dire juste quelques noms comme ça. Mais c'est sûr que, je ne sais pas, au début de la musique électroacoustique, tu n'as pas beaucoup de femmes dans les studios. Pourquoi, je sais pas.
Non, mais c'était surtout pour.
C'est un rapport aussi de c'est un rapport aussi de pouvoir, parce que en fait il y avait des femmes qui travaillaient dans la radio, mais pas forcément
à ces postes-là.
À ces postes-là, quoi.
Et donc à tout ce rapport entre le mot qui devient une action, et qu'est-ce que peut provoquer la diffusion d'un mot dans un espace, qu'est-ce que ça peut provoquer comme réel.
Tu parlais de Larry Austin, du langage, du pouvoir de l'image.
Oui.
Non, mais en tout cas, je pense que c'est au-delà même de la question de sexe ou de genre. Je pense que le langage, c'est un terrain de. C'est un terrain effectivement de pouvoir, de domination, donc c'est un terrain de lutte. Et c'est effectivement un domaine dans lequel on doit d'une part faire attention à tout ce qu'on appelle la novlangue, la manière de transformer des mots qui représentent des actes pour les rendre plus cool, plus gentils, plus acceptables, quoi. Donc il y a des choses dont il faut vraiment se méfier par rapport à ça, revenir au vrai sens des mots. Après, toute cette possibilité d'un champ expérimental où il faut explorer le langage pour le transformer, je crois que c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle, dans la langue du quotidien. Mais après, il y a effectivement aussi toute cette question du langage qui, même à la base, est masculin. Donc, il est aussi à remettre en cause par rapport à ça.
Bah après, il y a tout ce truc, parce que c'est un truc que je trouvais pas très clair. C'était le côté un peu mystique de Hugo Ball, par exemple, et du coup j'inscrivais ça parce que bon, dans la Bible, le fait de nommer les choses et que ça devienne réel, le fait d'enfanter Marie par le verbe, c'est hyper présent, enfin ce rapport performatif du langage. Et du coup je me posais la question de, je pense pas que ça les ait intéressés, je pense pas qu'ils y aient réfléchi comme ça, parce que c'était pas les questions de l'époque du tout. Mais du coup, ouais, parce que je me demandais par exemple, est-ce qu'ils ont continué à être un peu comme ça, Henri Chopin et tout ça, être un peu mystique dans ce truc. Parce que Hugo Ball, il parle quand même des démons, de la voix qui va combattre le monde, la voix unitaire un peu comme ça, qui va combattre le monde.
Ouais, je sais pas si c'est tant mystique que ça, tu vois, parce qu'il y a quelque chose de. C'est plutôt une interrogation sur soi-même ou sur ses outils performatifs. Et puis tu vois, l'enregistrement par exemple, la possibilité de la répétition. Après, s'il y a même beaucoup de compositeurs musique concrète, je pense notamment à un ami qui s'appelle Lionel Marchetti, mais il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Mais bah, c'est l'idée de mettre en rapport ces nouvelles techniques et ces possibilités qui sont liées à ces nouvelles techniques avec des choses ancestrales comme par exemple. Bah, les actes chamaniques, le chaman dans la répétition, à quoi ça l'amène, qu'est-ce qu'il ouvre comme porte, comme possibilité, une sorte de voyage intérieur. Et donc je pense que c'est aussi des questions toi, que beaucoup de gens se posent sans être forcément dans mystique par ailleurs, mais c'est parce que c'est vraiment des questions qu'on est en droit de se poser avec. Avec cette possibilité de l'enregistrement, de la répétition, le haut-parleur qui dissimule ce qui nous fait écouter, avec etc. quoi.
Je dis par contre, c'est à travers les machines du coup qu'on obtient du coup cet effet un peu hypnotique, un peu chamanique et mystique.
Non, mais je parlais de la boucle, de la répétition.
Ouais.
Mais expérience que tu peux même faire toi, toute seule avec ta voix, si tu prends une phrase, tu prends un mot et tu le répètes. Tu le répètes 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. Il y a un moment où le sens disparaît.
Ouais.
Et c'est juste des sons.
d'épuisement. Là,
quelques... Alors, il y a un épuisement aussi, mais en même temps, d'une part, ça, ouais, tu rentres dans un état d'épuisement, mais en même temps, ce que tu dis, il y a des permutations qui peuvent apparaître, ça va devenir autre chose que la phrase du début. Donc, l'enregistrement, cette possibilité de réécouter un son et de le réécouter à l'infini, ouvre sur d'autres voies qui peuvent être, bah, qui sont à la base de ce qu'on appelle la musique concrète, mais qui sont aussi, qu'on peut mettre en parallèle aussi avec des actes mystiques, des actes ancestraux, notamment le chaman qui va répéter des phrases, qui va frapper sur son tambour, pour le tambour étant presque comme une représentation de l'oreille aussi, et donc pour transporter dans d'autres états, pour voyager tout en étant là, quoi.
Il y a des compositeurs qui ont travaillé plutôt sur ça.
Bah, après, disons qu'on a parlé d'Eliane Radig. Je peux pas dire qu'il y a des compositeurs qui ont travaillé là-dessus de manière aussi volontaire. Mm-hmm. Mais en tout cas, si on parle de compositeurs, notamment nord-américains, comme Lamonté Young, par exemple, c'est vraiment des gens qui sont dans une idée de transe. Rien à voir avec tous ces mots qu'on a utilisés pour parler des rêves parties ou de la techno, mais vraiment dans un autre domaine où il y a, et puis il y a quelque chose lié à la temporalité aussi, où il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin, et en fait on est dans quelque chose d'infini qui ne s'arrête jamais. Alors après ça a été fait aussi pas mal avec les premières expériences avec notamment avec l'ordinateur, avec l'informatique, ou en essayant de brasser les mots de manière complètement aléatoire, où à chaque lecture, c'est un nouvel ordre qui se met en place. Donc, à chaque fois, tu as une sorte d'œuvre en évolution permanente.
Que c'est une fausse question, en fait, la différence entre poésie et musique. Et que du coup, eux, ils ont été très inspirés par Cage, notamment. Et que il y avait un truc très... Ouais, très... Enfin, pour eux, peut-être pas, mais plus que ça, quoi. Plus... comme c'était équivalent un peu.
Non, mais ça c'est vrai. Hein, il y a des catégories qui sont un peu soit facilité de vocabulaire, soit qui sont marchandes, quoi. Qui sont pas vraiment nécessaires. Mais c'est là où c'est intéressant, justement, beaucoup de moments chez Chopin ou les suédois dont je vous parlais, là, tout ce qu'on appelle le text-centered composition, où là, ça explose encore plus la frontière, parce que le mot vraiment disparaît au profit du... Au profit du son. Hawk Odell, je suis un grand fan de ce monsieur.
Ah, ça, bah, je connais pas du tout.
Bah, c'est lui, c'est un mec délirant. C'était quelqu'un. Alors, je connais pas très bien, mais c'est quelqu'un qui était poète, puis qui a fait son service militaire, qui a fait la guerre dans les avions, et quoi, dans l'aviation. Et il est revenu de ça vivant, il a dit qu'il ne ferait plus jamais ça. Et il a fait beaucoup de travail, donc de poésie sonore, de musique électroacoustique, mais très marqué par la guerre et puis aussi par le politique. Quoi. Il a fait plein de pièces sur les Black Panthers aux États-Unis, il a fait plein de pièces anti-militaristes par rapport à la guerre. Il a fait une pièce aussi qui est incroyable, où il a eu beaucoup de problèmes avec ça en Rhodésie. Avec des enfants qu'il avait enregistrés, et il a composé par rapport à ça, mais c'est vraiment une pièce qui est anticolonialiste et contre l'homme blanc qui est là comme maître dans un pays africain.
Ah, c'est super.
Donc il a fait un peu tout ça, ça on pourra écouter. Et ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail qui est très. Il y a vraiment un engagement et il y a quelque chose de très. Et là, pour le coup, il y a quelque chose de très. Il utilise aussi. Presque les armes de l'ennemi, quelque chose de très martial, de très guerrier, quoi, d'une certaine manière.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 three, four. One, two, 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 three, four.
Par rapport à Ladislav Novak, qui était tchécoslovaque, ou tchèque d'ailleurs, plus.
Bah, à l'époque.
Enfin, à l'époque c'était tchécoslovaque. Ouais. mais du coup, c'est marrant parce que. Non, parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme Chirico Banda et tout qui sont apparus après, qui sont très peu connus maintenant dans le monde de l'art. Mais j'ai l'impression qu'ils préfigurent tout ça et bon, personne n'en parle, c'est assez drôle. Et j'étais assez fasciné. Et alors, si j'ai bien compris, c'est pour là où j'aime.
Je comprends pas très bien
ton avis. C'était quand Henri Chopin en parle, j'ai l'impression qu'il a pas accès au magnétophone. Et que du coup, il est obligé d'écrire des espèces de partitions pour magnétophone, mais sans avoir l'outil. Mais dans lequel il projette un peu. Ce que je trouve hyper intelligent, c'est qu'il projette en fait les possibilités de ce matériel. Je me demandais si j'avais mal compris en fait. Ou si,
Là, je peux pas dire.
Ouais. Ceterum autem censeo. 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 Carthaginem esse delendam. Delendam. Dum, dum, dum dillin dum dum dillin dum 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 Delendam. Carthaginem esse delendam. Carthaginem esse delendam.
Las poète aussi.
Ah, c'est Las poète, oui.
Ça, je connais pas du tout.
Tu connais pas ?
Non.
Ah, mais là, c'est Las Poète, on va carrément dans d'autres. Mais c'est intéressant qu'il en parle.
C'est quoi ?
On va carrément vers des gens qu'on.
C'est de l'infra-jazz-di, apparemment.
Ouais, mais c'est un peu le. Pour certains, c'est les grands-pères un peu du hip-hop et du rap. Quoi.
C'est un peu Sanra, non ?
Enfin, je sens. Ça jazz ?
Non, pas du tout. Oh,
non. Non, mais on va dire que c'est vraiment tout un travail de poésie revendicatif.
années 60.
Afro-américaine. Mmh. Et avec de la musique. Mais vraiment, il y a cette idée de tchatch. Donc c'est pour ça qu'on les considère souvent un peu comme les grands-pères du rap, quoi, un peu, du hip-hop.
Ouais, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'entends ce rap aussi.
Et du coup, c'était un posé chanté, pour moi.
Ouais. Ou quelquefois, vraiment...
Parler.
C'est la forme de manifeste, un peu.
Mais il y a aussi Isaac Hayes, qui a fait beaucoup de musique de... Mais aussi, qui est considéré aussi comme un grand-père du rap. Parce qu'il y a des passages dans ses musiques où il parle, en fait. Qui a été recité, d'ailleurs, par le Wu-Tang, ou des choses comme ça.
Moi, Penka, c'est aussi pour moi quelqu'un qui... qui s'attache aux petits détails du quotidien et qui les ridiculise, qui les explose ou qui les transcende. Mmh. C'est aussi quelqu'un qui a des questions très politiques sur le langage et sur... aussi, sur toujours encore une fois, sur le quotidien, comment essayer de pas séparer le quotidien du reste et de se rendre compte que c'est dans la vie de tous les jours qu'il y a aussi une quête de la liberté... à conquérir, quoi.
Il y a aussi ce truc de... même comment il diffuse une espèce d'engagement dans sa façon de tout accepter comme lecture, enfin de d'être partout un peu, de lire tout le temps, d'être comme ça dans un espèce de truc. Et aussi avec le groupe qu'il a, l'Armée Noire, d'aller dans les bars, de lire, d'aller dans les marchés, de lire et tout. Je voyais la politique aussi vachement là-dedans, aussi. Dans le contenu, mais aussi dans la forme, quoi, de diffusion, quoi, dans les modes de diffusion. Qui est une réflexion d'ailleurs qui est déjà là chez Bernard Haitink, même si c'est peut-être moins politique chez lui, mais ne pas se séparer mode de faire et mode de diffusion. Mm-hmm. Mais c'est ce qu'on disait au tout début avec le magnétophone, en fait.
Et parce que Penka, c'est aussi quelqu'un qui est invité dans des festivals plus liés à l'improvisation, qui peut se retrouver à jouer avec d'autres musiciens ou poètes. Moi, je l'ai vu une fois avec Paul Dutton. Paul Dutton, c'est aussi un vieux de la vieille... qui faisait partie des Four Horsemen, qui était un groupe de poésie sonore canadien, mm-hmm. anglophone. Puis il y avait aussi, je ne sais plus qui il y avait comme musicien. Mais. Donc il a aussi quelque chose d'assez musical dans sa diction, dans sa manière de dire. Et puis il amène aussi des contrepoints un peu en permanence. Quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est qu'il s'appelle Jab Blanc, qui est un néerlandais.
Et c'est quelqu'un qui a, on a parlé.
Il a interprété aussi la Ursonate de Schwitters, dont on n'a pas parlé, ça c'est aussi une pièce
super importante. Parce qu'on est passé plus sur Hugo Ball.
Et qui fait le lien aussi avec Raoul Haussmann, parce que c'est Raoul Haussmann qui a lancé l'idée de la Ursonate à Schwitters, qui avait écrit les premières pages. Et Raoul Haussmann, c'est aussi quelqu'un qui est important chez Chopin aussi, dont Chopin parle beaucoup. Puis il se trouve que Raoul Haussmann a vécu une grande partie de sa vie en France vers Limoges, et donc ça a été la possibilité aussi pour Chopin de le rencontrer et de faire des choses avec lui. Et puis il y a tout un fonds de documentation qui est dans je sais plus quel musée de Rochechouart, pas très loin de Limoges, où tu as toutes les archives de Raoul Haussmann.
Ah ouais.
Qui sont, je crois, consultables. Et donc oui, donc Jab Blanc, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment ce lien avec cette histoire-là, parce qu'il a interprété la Ursonate. Il fait des choses très dans l'idée du global et dans l'idée d'Ada. Il fait des choses beaucoup plus
expérimental en allant aussi utiliser les possibilités de l'informatique pour complètement transformer sa voix ou faire des choses complètement aléatoires, des programmes ouverts avec sa voix. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé beaucoup en improvisation avec différents musiciens. Après, il y a plein de gens. Des gens aussi qui sont aux frontières de la voix, de la poésie, de la musique. Il y a quelqu'un qui s'appelle Joachim Montessui.
Ouais, ça, ouais.
C'est un Français qui fait partie de une association qui s'appelle Eratum. C'est un peu à part, mais en même temps, il y a des liens aussi. Il y a un Suisse qui s'appelle Dave Phillips. Dave Phillips.
Ah, Dave. Fait.
Ou alors Rudolf Heber. C'est des gens qui sont là plus finalement dans un lien avec les actionnistes viennois. Mm-hmm. Une performance très, très physique et très revendicatif. Mais il y a souvent aussi un travail avec la voix. Là, je pense qu'on a reçu un disque de lui il n'y a pas longtemps. C'est un Américain qui s'appelle Spencer Yeh, qui est un violoniste, mais qui travaille aussi beaucoup avec la voix, là, qui vient de faire un disque que de voix, où là, c'est vraiment un travail qui est rendu possible par l'enregistrement et par l'amplification, avec le micro très très proche, pour entendre tout le détail. Toujours, bah, à Acronome, il y a Anne-Laure Pigage, que vous connaissez.
On va travailler avec
elle. Voilà. Oui. Anne-Laure, elle ne se situe pas... directement, je sais pas comment elle se situe, mais pour moi c'est pas directement ça, mais c'est forcément lié aussi, quoi. Et puis c'est aussi quelqu'un qui travaille avec de manière très subtile avec la possibilité de l'enregistrement, de l'amplification de la voix ou en acoustique. Il s'appelle Jérôme Guem,
oui,
et qui a été publié chez Aldante. Oui. Et lui, je l'ai vu une fois lire des textes où il y a vraiment t'as l'impression d'écouter un CD qui tourne pas rond, quoi, avec des sautes. Tu passes, c'est comme si tu sautais d'un.
Ouais, il est assez. Puis il a une voix très spéciale, douce en même temps et en même temps très.
Beaucoup de distance.
Ouais, très. Et il fait des espèces de vidéos sur YouTube avec des trucs très étranges, des avions, tout, je sais. C'est assez beau.